Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Notre première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous a fait assister à un moment où la jeune Église traverse une véritable crise, un ébranlement interne qu'on peut désigner comme crise de croissance. Nous sommes déjà quelques années après la résurrection du Christ, crise qui comprend des tensions, des réclamations, des mécontentements, des tensions entre les différents groupes culturels et linguistiques. Voici ce que nous disait Saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres. Le nombre des disciples augmentait. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Cette crise ne me semble pas être un désastre à cacher éventuellement soigneusement, mais un événement qui pousse à réfléchir et à chercher ensemble de meilleures manières de vivre en Église, des façons qui tiennent compte des besoins des uns et des autres, des manières qui permettent, à travers même des bouleversements organisationnels et des innovations non prévues auparavant, d'approfondir, de rendre plus solide la paix de la communauté. Dès ses plus jeunes années, de bébé pour ainsi dire, l'Église est ainsi mise en route d'un apprentissage, à savoir de l'apprentissage à travers le concret du quotidien, de la vie nouvelle qui lui vient de Jésus ressuscité. En sera-t-elle jamais dispensée? N'est-elle pas, au contraire, le peuple en marche à travers l'histoire et les cultures, parfois ressemblant à des déserts, réalité bien humaine, mais que l'Esprit-Saint désire sans cesse transformer en cette mystérieuse nouvelle réalité qu'elle ne peut pas se donner à elle-même, savoir en cette réalité qui consiste à vivre de mieux en mieux, de plus en plus profondément, du mystère de la communion du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint. Mais revenons un petit peu quelques années auparavant, à savoir à notre évangile qui nous situe au temps d'avant la résurrection de Jésus, plus exactement aux heures de ses derniers entretiens avec ses disciples. Ces moments de colloque intime qui, d'une part, prolongent la dernière scène, avec le geste inouï du lavement des pieds, mais aussi l'annonce douloureuse de la trahison, et d'autre part précède le moment terrifiant, déstabilisant, où Jésus se laissera conduire sans résistance comme un petit agneau à sa passion et à sa mort. Nous devinons assez aisément qu'en ces heures, l'ambiance au cénacle n'est pas à la jubilation. Les disciples sont secoués, troublés, labourés par des questions angoissantes, car ils ne peuvent pas, ou plus, se cacher que leur maître ne veut nullement se mettre à l'abri de ceux qui en veulent à sa vie. Pour les disciples, un monde est en train de s'écrouler. Comment saurait-il ne pas se sentir abandonné, conscient d'être privé de celui en qui ils avaient mis toute leur espérance? et Jésus, il les voit, il voit leur cœur et il comprend ce qui les travaille. Mais au fond, n'est-il pas l'unique à pouvoir et savoir les comprendre comme à partir de leur propre cœur, les comprendre non seulement avec une intelligence très fine, mais aussi, et peut-être surtout, avec cette sensibilité pleine de tact et de respect dont il a fait preuve si souvent vis-à-vis des personnes éprouvées, des pauvres, des exclus, des humiliés, des pécheurs. En effet, le Christ n'est-il pas celui qui, par excellence, peut et veut se solidariser avec ceux qui sont dans l'épreuve, parce qu'il est capable, lui aussi, de sentir le poids de l'existence, capable d'être, lui aussi, le Fils de Dieu, lui devenu notre frère, capable d'être jeté dans des bouleversements intérieurs très profonds, bouleversements qui évoquent, du reste, plusieurs fois, et avec grand soin, Saint Jean, notre évangéliste, qui à ce propos utilise toujours la même expression, le même verbe. Ainsi, lorsque Jésus est devant la tombe de son ami Lazare, ou au moment où il annonce la trahison par Judas. Pourtant, si Jésus, le Christ, se montre capable de comprendre, ce n'est pas pour tomber dans une sorte de sentimentalisme. C'est qu'il comprend surtout combien ses disciples ont besoin de sa parole, besoin d'une parole qui les fait trouver un nouvel appui, un appui qui ne trahit et ne trompe pas, mais qui porte même au sein de l'épreuve, un appui qui ne se situe pas dans telle ou telle valeur terrestre, dans tel ou tel projet terrestre, mais un appui qui vient d'ailleurs. Et quel est cet appui que Jésus désire révéler et donner à ses disciples bouleversés? N'est-ce pas le mystère de cet appui solide qui porte Jésus lui-même? Cet appui infiniment fiable qui le porte tout moment et en toute situation et auquel il se réfère constamment, auquel il est référé en tout et pour tout. Cet appui qui n'est pas une chose ou une belle théorie ou un beau sentiment, mais quelqu'un. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Face aux émotions profondes et douloureuses de ses disciples, comme face à nos propres émotions et ébranlements intérieurs, Jésus ne joue nullement à l'insensible, ni à l'ascète héroïque, et non plus au moraliste. Car Jésus veut nous révéler non pas quelque chose à faire ou à ne pas faire, mais il veut nous révéler quelqu'un, nous apprendre à nous référer à celui qu'il nomme « mon Père ». C'est bel et bien pour cela qu'il désire rendre son témoignage de fils jusqu'au bout, afin que ses premiers disciples, comme aussi nous-mêmes, nous puissions croire, croire en celui qu'il nommera devant Marie-Madeleine, « mon Père et votre Père ». Frères et sœurs, comprenons-le bien et entraînons-nous à ne jamais l'oublier. Si Jésus prend au sérieux les sentiments, les difficultés, même les étroitesses et petitesses de ses disciples, s'il se montre capable de les prendre, pour ainsi dire avec respect et tendresse en ses propres mains, c'est pour les faire comprendre, ainsi que nous-mêmes aussi, que c'est avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons et éprouvons, et avec tous les défis que la vie nous lance, que nous sommes appelés à nous remettre toujours et toujours au Père de toute miséricorde, et en lui, Jésus, son Fils, son envoyé, notre Seigneur et notre frère.